La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième épisode de notre série consacrée à la romancière anglaise Jane Austen. Jane Austen, dont nous avons rappelé lundi la vie calme en apparence, à peine ponctuée de quelques intrigues amoureuses qui ne donneront lieu à aucun mariage, mais une vie également marquée par le rapport de la gentry à l'argent qui va conditionner toute son existence et qu'elle va s'employer à étudier précisément dans ses romans. Hier, nous sommes revenus sur la question du langage, un thème qui est premier dans les romans d'Austen, où la parole est bien souvent rien moins que de la fausse monnaie et où l'on peine à se parler réellement. Demain, deux regards sur Jane Austen, avec d'abord Marianne Alphand qui se livrera à un exercice d'admiration et à une relecture de sa vie et de son œuvre, et puis avec Dominique Bourg en seconde partie qui nous expliquera comment on a accueilli et lu en France Jane Austen avec parfois quelques contresens. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous nous attardons sur trois grands romans, Mansfield Park, Persuasion d'abord avec Christine Jordis, et puis Emma en seconde partie, ce sera avec Dominique Barberis. Toutes deux ont rédigé les préfaces de ces livres chez Folio, Gallimard. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Elle était chagrinée jusqu'au mécontentement, jusqu'à la colère contre Edmund. À quoi rime ce délai, se disait-elle. Pourquoi tout n'est-il pas réglé? Il est aveugle et rien ne lui ouvrira les yeux, rien ne pourra les lui ouvrir, depuis le temps que la vérité s'étale en vain sous son regard. Il l'épousera et il souffrira et sera malheureux. Dieu veuille que sous son influence il ne renonce pas à être digne d'estime. Elle parcourut la lettre à nouveau. Elle-même si tendrement, du vent. Elle n'aime personne, qu'elle-même et son frère. Ses amis auraient eu une mauvaise influence sur elle pendant tant d'années. Il se pourrait tout aussi bien que ce soit elle qui ait une mauvaise influence sur les autres. Admettons même qu'ils se soient pervertis les uns les autres. Mais s'ils sont tellement plus attachés à elle qu'elle à eux, c'est assurément elle qui a eu le moins de chance d'être touchée, sinon par leur flatterie.
Un extrait de Mansfield Park en ouverture de cette émission, lu par Francine Bouffardet. Bonjour Christine Jordis.
Bonjour.
On dit que Mansfield Park est peut-être le plus beau des romans de Jane Austen. Est-ce que c'est votre avis également ?
Je ne sais pas si c'est le plus beau, ça n'est certainement pas le plus séduisant, parce que l'héroïne Fanny Price est tout sauf brillante et attirante, mais je pense que c'est le plus riche peut-être, le plus profond, et le plus difficile à lire, non pas à lire dans le sens de l'accessibilité, car il est très amusant, mais dans le sens de la compréhension, parce que ce que veut dire Jane Austen reste en grande partie caché par une sévérité qui nous paraît à outrance, nous, dans notre époque permissive. Et c'est un roman où elle ne fait pas usage de compassion, comme d'habitude, ni de légèreté, ni d'esprit, elle en fait bien sûr, mais beaucoup moins d'ironie que d'habitude. Elle est soit dans le comique, soit dans la condamnation.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout ce qui brille a disparu, tout ce qu'on retrouve d'habitude chez Jane Austen a disparu, au profit de quelque chose de grave, quelque chose de sévère, mais aussi peut-être de plus profond alors.
Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord raconter en deux mots l'histoire ?
Mais si.
Moi, c'est pas du tout que j'aime raconter des histoires, mais je pense que pour l'auditeur, ça sera quand même plus facile de se repérer s'il sait que Fanny Price, donc l'héroïne du livre, très jeune, on la trouve à 10 ans déjà, et a une disgrâce majeure, c'est qu'elle est pauvre. Elle est née dans une famille pauvre, de la lower middle class, et apparentée néanmoins cette famille au très grand Sir Bertram, propriétaire de Mansfield Park, où on va la recueillir par charité, dès ses 10 ans, donc en la retirant à une famille de 9 enfants. Et là, petit à petit, malgré son absence de dons visibles, malgré sa quasi, donc invisibilité, et son insignifiance, elle va peu à peu, par son jugement solide, par le fait qu'elle est liée à des principes dont elle ne changera pas, elle va peu à peu être reconnue comme la boussole de toute cette famille soumise à certains chaos amoureux, qu'on pourra décrire, et être, à la fin du compte, devenir la maîtresse de Mansfield Park. Donc, je trahis peut-être l'histoire en en donnant déjà la fin, mais ce sont les péripéties qui comptent et non pas la fin.
Et sur ces péripéties, justement, on va revenir petit à petit. Peut-être un mot de la façon dont il a été écrit ce livre. Il a été écrit à Shawtown, qui est un cottage en fait que son frère Edward leur avait offert. C'est important, ce lieu de l'écriture.
C'est très important, parce qu'elle a été interrompue pendant plus de 10 ans dans l'écriture. C'était une femme extraordinairement en avance. Elle a écrit deux romans, elle avait déjà écrit deux romans, et presque un troisième avant ses 23 ans. Et elle s'est trouvée dans un milieu familial si chahuté, avec des enfants autour d'elle, qui faisaient du bruit, chacun sait ce que c'est, qu'elle ne pouvait pas écrire. Or, enfin, après la mort de son père en 1805, son frère va leur donner une petite cure, ce tout petit cottage de Charlton.
Qui leur sauve un peu la vie.
Qui sauve la vie, parce qu'elle n'avait pas du tout d'argent. L'argent a toujours été un problème dans son existence, ainsi que celle de sa mère. Et là, non seulement elle va se trouver à l'abri relatif financièrement, mais elle va pouvoir se concentrer, travailler, s'adonner à son œuvre, et ça lui donne des ailes, tant et si bien que très peu de temps après son installation, elle publie Sense and Sensibility, donc Le cœur et la raison, Orgueil et préjugé, et elle se remet à son troisième roman, Mansfield Park, qu'elle va publier un an après Orgueil et préjugé, mais qui en fait a été composé pour la plus grande partie dans cette chaumière de Charlton.
Alors c'est un roman d'initiation, Christine Jordis, que ce Mansfield Park. On y lit au fond le portrait de Fanny Price, personnage principal, et elle a été, vous l'avez dit, recueillie par charité, et elle ne fait rien, paradoxalement, pour être une héroïne. Et pourtant, elle est absolument l'héroïne de ce roman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi c'est presque une contre-héroïne que cette Fanny Price?
Ah mais parfaitement, c'est une contre-héroïne. Et d'ailleurs, nombreux ont été les critiques et les écrivains à s'étonner qu'une personne aussi insignifiante puisse tenir la première place dans un roman de la grande Jane Austen.
C'est ça, qu'elle aime, c'est rester assise sans rien dire et le plus possible se faire oublier.
Kingsley Amis, le père du grand Martin Amis, la trouve a prig, c'est-à-dire une prétentieuse, une personne qui émet des jugements en permanence, sans bouger, qui a toujours raison, qui n'avoue jamais qu'elle est dans son tort, car elle ne l'est pas, d'ailleurs. Il se trouve que son jugement est juste comme une aiguille de boussole et les gens, beaucoup de lecteurs, ont trouvé ça assommant. Mais moi, après l'avoir lu et relu, je défendrai Fanny Price parce qu'il faut voir le contexte historique dans lequel Jane Austen a écrit ce livre et elle avait besoin d'une héroïne qui s'en tienne aux principes. Et ça, on peut développer très longuement si vous voulez.
On va venir justement à cette question du contexte historique, mais l'intérêt de ce personnage pour Jane Austen, finalement, parce que c'est un des derniers livres qu'elle écrit avant sa mort, certes jeune, mais c'est un personnage de la maturité tout de même pour Jane Austen. Pourquoi choisit-elle de faire ce portrait de cette héroïne paradoxale, cette héroïne très étrange, et qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle l'approuve totalement, qu'elle est totalement avec ce personnage a priori falot?
C'est ça, elle l'approuve totalement, parce qu'elle met sur elle les valeurs qu'elle-même défend dans un monde qui était en train de changer. Et là, on ne peut pas faire l'économie de l'histoire. Elle met deux forces en présence dans ce livre, l'une étant la force de l'avenir, Londres, la ville, le paraître, l'apparence et le faux.
La modernité.
La modernité. Mais la modernité dans ce qu'elle a de faux. Et ça, on va y revenir. Et en face, il y a l'Angleterre rurale qu'elle aime, l'Angleterre des Tories, l'Angleterre conservatrice, avec les valeurs en lesquelles elle croit, qui sont celles de la permanence, contre l'impermanence qui serait incarnée non seulement par Londres, mais par deux personnages qui viennent de Londres, qui sont extraordinairement séduisants, qui vont semer le chaos dans ce Mansfield Park, qui normalement est immuable et ne devrait pas changer. Donc Londres est là à affronter, troubler, détruire presque la permanence des valeurs Tories, des valeurs de la conservation dans Mansfield Park, à la campagne. Et Fanny va représenter celle qui, justement, parce qu'elle est immobile au milieu de ces batailles, au milieu de ces confrontations de forces contradictoires, hein, puisqu'il y a la ville et le paraître et le jeu, dans, notamment la pièce de théâtre qu'ils mettent en scène à Mansfield Park, et où on voit que chacun des acteurs incarne une forme de, un aspect de lui-même.
On va y revenir, oui.
On va y revenir. Voilà, ça c'est donc le jeu contre la vérité qu'incarne Fanny. Fanny est la vérité, elle est la permanence, elle est celle qui ne bouge pas.
Est-ce que ça veut dire, Christine Jordis, que Jane Austen est une femme conservatrice? Puisque vous nous dites qu'au fond, elle joue Londres contre la tradition campagnarde, et que quand on lit ce livre, on a l'impression qu'elle donne raison à Fanny Price, qui incarne le côté un peu rébarbatif, mais traditionnel, et le côté aussi campagnard de la gentry.
Je ne dirais pas ça comme ça, parce qu'elle était beaucoup trop intelligente pour être purement conservatrice. Elle voyait bien tout ce qu'il y avait dans le côté conservateur de dur et de pesant, et même d'inhumain, surtout pour une femme. Et sa Fanny Price n'est pas rébarbative. Elle devient d'ailleurs au cours du livre plus jolie, elle grandit même de quelques centimètres, elle cesse de rougir et elle s'adapte. Donc elle n'est pas purement rébarbative, simplement elle est ferme et elle offre une résistance qui certes était celle que Jane Austen avait par le cœur contre les changements.
C'est la compagnie des auteurs et nous parlons de Jane Austen avec Christine Jordis et en l'occurrence de son roman Mansfield Park. Mansfield Park dans lequel on retrouve trois lieux, cette magnifique propriété de Mansfield Park qui représente donc, on vient de le dire, la tradition. Londres qui représente le changement permanent, parfois un peu effrayant.
Et l'avenir tout de même.
Et l'avenir. Oui. Et puis il y a un troisième lieu et c'est le lieu d'où vient Fanny Price. Et là, c'est en fait le lieu de la pauvreté, mais aussi le lieu du bruit. Vous pouvez nous parler de cet endroit?
C'est Portsmouth, donc une ville portuaire que Fanny, quand elle y revient des années plus tard, après avoir été élevée à Mansfield Park, retrouve en pensant que c'est home, que c'est chez elle. Et elle va s'apercevoir qu'en fait, Portsmouth est un lieu pour elle chaotique, où rien n'est à sa place. Et ça, c'est très grave. Pour Jane Austen, la place signifie quelque chose, la place et la forme. Or, à Portsmouth, personne n'est à sa place, tout le monde s'agite en vain, le mouvement est sans effet, il dérange les lignes, il n'y a pas de silence véritable, donc pas de possibilité de solitude, ni de retrait, ni de réflexion sur soi-même. Donc des personnalités qui n'en sont pas, qui n'ont ni place ni forme. Et elle insiste sur le fait que la pauvreté est cause, en partie, car elle n'est pas politiquement correcte, heureusement, de tout cela. Donc, Fanny accuse et condamne très sévèrement ses parents, notamment sa mère, qui est la sœur de Lady Bertram. Parce que sa mère a exactement les mêmes défauts, c'est-à-dire que c'est une femme inefficace et paresseuse, mais la pauvreté a fait de cela une calamité, tandis que dans le cas de Lady Bertram, la richesse l'a aidée à vivre ses manques. Mais Jane Austen ne dit pas « Ah, la pauvreté est coupable », pas du tout. Elle dit « Il faut faire attention en se mariant. Certes, on doit se marier parce qu'on aime quelqu'un, l'amour vient en premier. Mais il faut aussi faire attention à ses arrières et avoir un peu d'argent quand on n'est pas équipé pour n'en pas avoir.
Mais là où elle est politiquement incorrecte, c'est qu'au départ, on a l'impression qu'elle va retourner dans sa famille pauvre et qu'elle va y retrouver l'affection naturelle que finalement on a dans les classes les plus modestes. Or, ce qu'elle trouve, ça n'est pas forcément ça. Et finalement, elle fait le choix de retourner à Mansfield Park, c'est-à-dire de retourner dans le lieu
Écoutez,
de la richesse.
Vous voulez dire qu'elle trouve tout simplement abominable cette famille. Elle condamne son père qu'elle trouve alcoolique, sa mère qu'elle trouve plus ou moins une souillon, pas tout à fait ses frères et sœurs, parce qu'elle va tirer l'une de ses sœurs de ce sinistre endroit, mais elle n'aime pas du tout, elle ne se sent pas chez elle, elle condamne tout cela, et elle se rend compte que home, son lieu d'appartenance, son lieu d'identité, c'est celui où règne l'élégance, l'espace, le silence, l'ordre, la discipline, à savoir Mansfield Park.
Mais arrivent à ce moment-là les Londoniens qui, eux, ne sont pas nés dans la pauvreté, qui ont toujours été riches, ce sont les Crawford, et sont tout à fait brillants. Ils arrivent à Mansfield Park et ils incarnent là encore autre chose, c'est-à-dire une richesse, mais une richesse un petit peu dévoyée, et qui est peut-être la richesse de l'époque en Angleterre.
C'est ça, Christine Jordis. Qui était la richesse, comme on l'a dit tout à l'heure, historiquement, contestable, parce qu'elle n'était pas soutenue par des principes. La richesse établie de longue date, la richesse rurale, dans un lieu où elle a pu se maintenir, mais en observant, en respectant les principes et les obligations qu'elle vous crée, et ça on le voit dans tous les romans de Jane Austen, dans Persuasion en particulier. Donc cette richesse-là, cette richesse ancienne, est acceptable dans la mesure où elle crée des devoirs, où on respecte ses devoirs. Mais l'autre richesse, qui est celle de la ville, et qui est fondée sur une demande permanente de plaisir et de changement, qui n'a pas une solide éducation, puisque le livre porte sur l'éducation à la base, cette richesse-là est une richesse dangereuse et que Jane Austen condamne très fort dans ce livre.
Alors tous ces gens-là vont décider pour s'amuser, vous l'évoquiez tout à l'heure, de monter une pièce de théâtre. En quoi est-ce que c'est très important ce thème finalement de la pièce de théâtre ?
Eh bien, c'est très important et c'est d'autant plus étrange qu'on pourrait croire qu'à la campagne où on s'ennuie quand il pleut, on est après tout bien le droit de monter une pièce de théâtre et Jane Austen aimait beaucoup faire ça. Mais là, la pièce de théâtre devient le symbole, c'est un livre très symbolique tout le temps, alors devient le symbole du jeu. J-E-U, c'est-à-dire qu'on incarne et on s'amuse à incarner un aspect de son moi. Le moi étant
c'est-à-dire
constitué...
C'est-à-dire la fausseté, c'est-à-dire le masque,
oui, non,
c'est ça ?
Oui, le moi étant constitué d'une multiplicité de personnages, au lieu d'habiter son centre et de savoir qui on est, on varie d'un aspect à l'autre, on s'amuse à incarner un aspect de sa personnalité ou un autre, et ce jeu, en quelque sorte, sur la multiplicité, sur les possibilités diverses qui nous habitent, nous conduit à fausser compagnie à notre vérité la plus importante, à ce que nous sommes en réalité. C'est ça l'idée de Jane Austen. Et effectivement, Henry Crawford, qui est donc l'un des deux qui arrive de Londres, avec sa très jolie sœur Mary, adore le jeu. Et il y est excellent. Et il peut conseiller tout le monde. Alors que Fanny, comme une petite souris, refuse absolument de jouer. Elle ne peut pas jouer, car elle est avant tout elle-même. Elle ne rentre pas dans la fausseté des apparences et de cette multiplicité des moi. Elle est toujours elle-même envers et contre tout. Et son pendant, le terrible Edmund qui va être pasteur et qu'elle aime en secret, lui-même refuse longtemps de jouer jusqu'au moment où il consent à interpréter son propre rôle qui est celui de pasteur. Et là, c'est l'horreur de l'abomination parce que jouer à être ce qu'on est, il n'y a en quelque sorte pour Jane Austen rien de pire.
Pour terminer sur Mansfield Park, quand même, vous ne trouvez pas ça du coup un petit peu puritain, un petit peu moraliste finalement ?
Non, pas du tout. J'ai eu la tentation de trouver ça puritain en le relisant pour vous. Et puis je me suis dit non, pas du tout. Non, je comprends Jane Austen et il faut la comprendre et la suivre jusqu'au bout dans sa volonté de lutter tout en sachant qu'elle perdra, c'est assez beau, contre ce qu'elle sent venir et qui est le règne du faux, le règne du masque tel qu'on en met en ville pour tenir le coup simplement et produire sur les autres un effet.
Allez, on passe au deuxième roman que vous avez préfacé pour Folio Gallimard. Il s'agit de Persuasion, un extrait lui ici par Guillaume Gallienne.
Les chansons et les proverbes ne parlent que de l'humeur volage des femmes. Mais peut-être allez-vous me dire qu'ils sont tous écrits par des hommes. Peut-être, en effet. Oui. Oui, s'il vous plaît, pas de références et des exemples tirés de livres. Les hommes, en racontant leurs histoires, ont eu sur nous tous les avantages. Ils ont eu une éducation tellement supérieure à la nôtre. Ce sont eux qui ont la plume en main. Je ne reconnais pas au livre la propriété de prouver quoi que ce soit. Mais alors comment prouver quelque chose ? Demanda le capitaine. Nous ne prouverons jamais rien. Nous ne devons pas nous attendre à prouver quoi que ce soit sur ce point. C'est une différence d'opinion qui ne souffre pas de preuves. Il y a probablement à l'origine un petit parti pris qui nous fait interpréter en faveur de notre sexe tous les faits que nous avons vus se produire autour de nous et dont beaucoup sont précisément de ceux qu'on ne peut citer sans trahir le secret ou qu'il ne convient pas de mentionner pour certaines raisons.
Persuasion, dernier livre de Jane Austen, il est publié de façon posthume et c'est un livre qui reprend alors là le thème extrêmement récurrent chez elle, d'un jeune homme et d'une jeune fille qui s'aiment mais qui ne peuvent pas se marier car ils ne sont pas du même milieu, Christine Jordis. Est-ce que par rapport à Mansfield Park il y a une évolution radicale ou est-ce qu'on est vraiment, comme souvent d'ailleurs d'un roman à l'autre chez Jane Austen, dans une continuité, dans un approfondissement ?
Tout à fait, dans une continuité et même dans une similitude, assez curieusement parce que Persuasion comme Mansfield Park, c'est l'histoire de Cendrillon. Et Jane Austen aime les histoires de Cendrillon et nous on adore, je pense que le succès est dû à cela. C'est toujours l'histoire d'une jeune femme, là évidemment dans Persuasion elle est plus riche et de meilleure famille, mais son amour est nié, son amour a été entravé parce que elle, pour le coup, s'était prise d'un jeune homme qui n'avait pas la stature sociale voulue pour entrer dans la famille. Donc elle a été niée, comme notre pauvre Fanny est niée, parce qu'elle est pauvre et d'une famille pas assez glorieuse. Donc vous voyez, il y a toujours ce côté social qui intervient, mais dans les deux cas, l'héroïne va triompher et obtenir, et dans Persuasion, je trouve ça très touchant, à l'automne de sa vie, ce qui pour nous serait très jeune, mais à l'époque était l'automne de sa vie, elle va avoir une seconde chance et se venger en quelque sorte de toutes les frustrations, de tout ce qu'elle a souffert par un bonheur éclatant. Éclatant qui lui vient alors qu'elle ne l'attendait plus, que personne ne l'attendait plus. Moi je trouve que Persuasion est un merveilleux roman.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui au fond le distingue réellement de Mansfield Park ? Qu'est-ce qui pour vous en fait vraiment le prix ?
Mansfield Park, comme vous le disiez tout à l'heure, peut être lu comme un roman puritain et un roman de la condamnation, ce qui n'est pas le cas de Persuasion. On a l'impression que, en vieillissant, elle n'est pas morte très vieille, mais Jane Austen tout de même s'est adoucie dans sa sévérité, parce que il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée dans Persuasion, c'est que Anne, qui est donc l'héroïne, la jolie héroïne de ce livre, au début, a eu un début de vie contre nature, en ce sens que son éducation avait été féroce, c'était une éducation qui suivait les principes de la société, fort dure pour la femme, et qu'elle avait appris le romanesque en vieillissant. Vous voyez, c'est assez beau ça. C'est-à-dire, le romanesque, c'est pas au début de vie, c'est plus tard dans la vie qu'on le découvre, après un long cheminement.
Alors il y a ce titre, Persuasion, Persuasion, qui n'est pas anodin, car dans le livre, la jeune Anne dont vous parlez, Christine Jordis, s'est laissée persuader par son amie Lady Russell de ne pas épouser Wentworth. Et quand Jane Austen choisit ce titre de Persuasion, c'est parce qu'elle porte un jugement sur la personne qui a persuadé, qui a voulu prendre en main la vie de quelqu'un d'autre.
En fait, il a été choisi, ce titre, après la mort de Jane Austen, qui, elle, aimait les titres en deux parties. Je ne sais pas si elle aurait choisi Persuasion, mais c'est très bien choisi parce que c'est toute l'ambiguïté du mot persuader. Qui est en jeu. Persuader, ça peut être quelque chose de très bien, mais ça peut être aussi un abus de pouvoir, ce que c'est dans le cas de Anne. Il faut se laisser persuader, ça c'est la mentalité de Jane Austen, quand on est un aîné, par un aîné qui a une vraie autorité et qu'on respecte. Mais là, cette personne n'est pas sa mère, c'est la remplaçante de sa mère et la persuasion qu'elle utilise est malvenue.
Et dans votre préface à ce livre, Christine Jordis, vous citez une autre préface, celle que Virginia Woolf a faite de ce même texte.
Elle est morte à 40 ans. Elle était encore soumise à ces changements qui donnent tant d'intérêt aux dernières années de la carrière d'un écrivain. Sans aucun doute, son entrain, sa force irrépressible, la vitalité de son imagination créatrice lui auraient permis de continuer à écrire si elle avait vécu. Et l'on est tenté de se demander si elle n'aurait pas écrit différemment. En 1817, elle était prête. Sa situation par rapport au monde extérieur était sur le point de changer. Sa réputation avait grandi très lentement. Si elle avait vécu ne serait-ce que quelques années de plus, tout se serait passé autrement. Elle serait restée à Londres, aurait dîné dehors, soupé dehors, rencontré des gens célèbres, se serait fait de nouveaux amis, aurait lu, voyagé et, de retour dans la paisible maison provinciale, aurait eu un trésor d'observations dont se repaître à loisir. Elle aurait connu plus de choses. Son sentiment de sécurité aurait été ébranlé. Sa comédie en aurait souffert. Elle se serait moins fiée au dialogue et plus à la réflexion pour nous faire connaître ses personnages. Elle aurait inventé une méthode claire et tranquille, comme toujours, mais plus pénétrante et évocatrice, pour communiquer non seulement ce que disent les gens, mais ce qui n'est pas dit. Ses spéculations sont vaines. L'artiste la plus parfaite parmi les femmes, l'écrivain dont les livres sont immortels, est morte au moment même où elle commençait à croire qu'elle réussirait.
Qu'aurait écrit Jane Austen si elle avait vécu après Persuasion?
C'est pas du tout ce que croit Virginia Woolf. Moi, je pense que Virginia Woolf, comme on dit maintenant, se projette en Jane Austen. Et en fait, le sort décrit ce qu'elle fait elle-même et qui est d'une grande complexité, évidemment, puisqu'elle se nourrit de tous les cercles sociaux de la vie. Mais Jane Austen, elle, ce qui l'aurait intéressé, c'est de gagner un peu plus d'argent. Elle a toujours eu besoin d'argent, mais elle ne voulait pas se montrer ni être connue. Elle tenait à son anonymat. Elle avait envie de rester invisible. Je ne sais pas si elle aimait ça, mais en tout cas, elle n'aurait certainement pas voulu sortir dans Londres et aller dans les soirées comme Virginia Woolf aimait le faire. Vous voyez, je crois que c'est deux tempéraments de femmes très très différents.
Mais c'est peut-être pas tant sortir que de passer à un type de roman peut-être plus analytique, peut-être plus cérébrale. Elle parle de Proust, bon, elle parle d'elle-même aussi.
Exactement,
hein,
oui.
C'est sûr.
Oui, oui.
Mais est-ce que vous, ou alors peut-être ne le pouvait-elle pas, car l'époque lui interdisait, mais est-ce que vous ne pensez pas que, passé 40 ans, elle est morte à 42 ans, elle aurait pu effectivement approfondir et aller vers quelque chose de plus cérébral, et finalement d'un peu moins descriptif, même si ses descriptions sont d'une telle finesse qu'elle touche déjà à la cérébralité.
Pour moi, son art, justement, qui est un art, Virginia Woolf le dit aussi, comique, consiste en toutes petites touches, comme elle le disait, peindre avec une plume en ivoire, en toutes petites touches très révélatrices. Je pense que de développer cela ne lui aurait pas profité. Sans doute l'aurait-elle fait, parce qu'elle aurait été obligée à un moment de sortir de sa technique, mais je pense que sa technique est parfaite.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Merci beaucoup Christine Jordis, vous restez avec nous dans la seconde partie de cette émission. Nous sommes à présent rejoints par Alexis Broca du magazine littéraire pour notre séquence En compagnie des revues. Bonjour Alexis.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes lecteur de Jane Austen ?
Assez peu, je vous avoue. J'ai lu Les This Is Anne il y a quelque temps, mais on vient de me dire que ce n'est pas exactement vraiment du Jane Austen.
Donc, ah oui, pourquoi ?
Apparemment, c'est un roman qu'elle n'a pas eu le temps de compléter et de finir comme elle l'aurait voulu.
Bon, vous pourrez aller voir le film qui est sorti cet été.
Il paraît, en effet.
Adapté de Lady Susan. Alors, vous venez nous parler aujourd'hui de la rentrée littéraire française qui est, on s'y attendait et nous l'avons évidemment à la une du magazine littéraire en septembre.
Oui, traditionnellement, notre numéro de septembre est consacré à la rentrée littéraire française. On s'occupe de l'étranger en octobre. Et c'est une rentrée tout à fait intéressante parce que cette année, eh bien, il n'y a pas de mastodonte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livre de, il n'y a pas de Michel Houellebecq réinventant notre futur politique. Il n'y a pas de livre d'Emmanuel Carrère racontant la vie des 12 apôtres en 120 chapitres. Il n'y a pas de nouveau bienveillante qui plonge la critique dans un état de sidération tel qu'elle peut plus, qu'elle ne peut plus rien lire d'autre. Donc, eh bien, c'est une rentrée assez ouverte qui nous permet, du coup, de redécouvrir des auteurs qu'on avait pu un peu négliger et d'en découvrir d'autres qui font paraître leur premier roman. Alors, du côté des auteurs que nous aurions peut-être un peu négligés, moi, j'ai beaucoup aimé le dernier livre d'André Makin.
Dont vous faites donc un long portrait dans le magazine littéraire.
Un portrait dans le magazine littéraire, c'était une vieille envie. Voilà, ça s'appelle L'archipel d'une autre vie. C'est un roman sur une poursuite. Cela raconte, ça se passe pendant l'époque stalinienne. Cela raconte une petite troupe formée de quelques soldats qui poursuit un évadé des camps. Et au début, on imagine que cette petite troupe a l'avantage. Elle est bien équipée, elle est armée. Il y a un chien qui les accompagne. Or, il se trouve que cet évadé, qu'ils imaginent au début allant presque nu dans la taïga, cet évadé est plein de ressources. Il connaît infiniment mieux la nature qu'eux. Et plus on avance dans ce roman, plus la petite compagnie soviétique se délite et mieux le portrait de l'évadé se sophistique et se construit. Et c'est un roman, en fait, qui a l'air très noir comme ça. C'est un roman profondément optimiste. C'est un roman qui se termine... Je vais juste évoquer un petit peu la fin parce que le quatrième de couverture...
Bouchez-vous les oreilles si vous voulez lire le livre d'André Makin.
Ah non, mais c'est un roman qui s'ouvre sur un horizon lumineux, sur une perspective presque survivaliste, une vie hors du monde. Enfin, c'est une fin à la Robinson. C'est d'ailleurs un livre auquel on peut le comparer.
Vous notez aussi, du côté des découvertes, le livre de Gaël Faye, Petit Pays.
Oui, tout à fait. C'est un livre qui a fait déjà beaucoup parler. En fait, c'est sans doute le premier roman le plus mis en lumière en cette rentrée. Alors, c'est un livre assez étonnant où Gaël Faye, en fait, imagine un alter ego qui s'appelle Gabriel, qui revient dans le pays de son enfance, le pays où il a passé une enfance assez privilégiée, d'ailleurs. Et ce pays, c'est le Burundi. Et le Burundi qui a, en même temps que le Rwanda, subi un génocide. Et Gaël Faye donc revient sur les traces de cette enfance privilégiée et qui se termine sur une note très grave. Voilà. C'est un beau texte sur lequel on a beaucoup écrit d'ailleurs. Gaël Faye est par ailleurs chanteur. Alors, on a beaucoup écrit à quel point Gaël Faye réinventait le français avec le rap. Bon, je ne suis pas exactement d'accord avec ça. C'est un vrai roman de littérature, si vous voulez. Et je trouve cet argument un peu gadget. Voilà.
Ouais, vous n'avez pas écouté le disque en lisant le livre
Il se trouve que je connais un petit peu un de ses co-chanteurs parce que j'ai publié un livre il y a longtemps avec lui qui s'appelait Edgar Secloca. Et donc, je savais déjà que ce groupe avait un vrai intérêt pour le texte au sens le plus littéraire du terme. Voilà. Alors ça, c'est du côté des découvertes et des redécouvertes, mais cette rentrée ouverte, elle nous permet aussi de nous pencher sur les tendances, les grandes tendances qu'on voit se dessiner lorsqu'on a comme ça 300 romans devant nous. Et cette année, ce qu'on peut voir, c'est beaucoup d'exofiction.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'exofiction, l'enfant de l'autofiction?
Oui.
Mais c'est pas la même chose quand même, racontez-nous.
Alors, en effet, c'est pas la même chose. Comme l'autofiction, hein, ce sont des romans qui se promènent sur cette frontière étroite et invisible qui sépare la
non-fiction
model, voilà, la vie de la fiction, la réalité de la fiction. Sauf que là, il s'agit de s'intéresser, pour reprendre la belle expression d'Emmanuel Carrère, l'auteur s'y intéresse à d'autres vies que la mienne. Il s'intéresse à d'autres existences. Et on remarque des tendances, d'ailleurs, à l'intérieur même de l'exofiction. Par exemple, on a pointé plusieurs exofictions cinématographiques. Vous avez, par exemple, Arnaud Sagnard, c'est un premier roman qui s'appelle Bronson, chez Stock, qui raconte la vie de Charles Bronson et à quel point il fut important pour les classes populaires à la grande époque des années 80 et des vidéoclubs. Vous avez un premier roman aussi extrêmement travaillé qui s'appelle « Sauf qui peut la révolution » de Thierry Froget chez Actes Sud, où là, Thierry Froget imagine en fait que Jean-Luc Godard a été chargé des cérémonies du bicentenaire. Ça donne quelque chose d'assez étonnant. Et dans le même genre, exofiction inventive, vous avez le livre d'Olivier Pourriol, « Une fille et un flingue », où là, ce sont deux jeunes metteurs en scène un peu foutraques, élèves de Luc Besson, qui font croire qu'ils tournent un film pour Jean-Luc Godard, en gros, pour d'abord pour réussir à recruter Catherine Deneuve dans leur casting.
Voilà. D'accord. Bon, mais c'est pas ça qu'on appelait déjà avant une biographie romancée, non ?
Non, pas exactement, parce que là, les auteurs se permettent, sortent de la biographie, déjà, se permettent toutes les fantaisies, et puis très souvent, d'ailleurs, se regardent dans le personnage qu'ils traitent. Vous savez ce que disait Céline, on ne parle jamais que de soi-même, chacun dans son coin. Et par exemple, Arnaud Sagnard parle de Bronson pour parler de la France populaire des années 80, des moquettes épaisses, des banlieues grises, et de tout cet univers qu'il associe, lui, aux vieilles cassettes des films de Bronson.
Ça donne envie d'aller lire un peu davantage votre compte-rendu dans le magazine littéraire. Merci beaucoup, Alexis Broca. Dans un instant, nous allons retrouver dans la compagnie des auteurs pour la seconde partie de cette émission la romancière Dominique Barberis, auteure d'une présentation à l'édition en folio classique également d'un roman de Jane Austen. Celui-ci, c'est Emma. Guillaume Gallienne nous en lit ici un extrait.
Dès qu'elle eut congédié la femme de chambre venue lui friser les cheveux, Emma put donner libre cours à son chagrin et s'installer pour méditer en toute tranquillité. C'était vraiment une triste histoire. Et il était affreux de voir ainsi ses projets les plus chers réduits à néant. Les événements avaient pris un tour fort déplaisant et ce n'était rien en comparaison du coup que recevrait Harriet. Cette affaire, certes, n'apportait à chacun que chagrin et humiliation, mais le pire était encore la douleur qu'en concevrait inévitablement cette pauvre Miss Smith. Ah, c'est avec joie qu'Emma eut accepté de se voir 100 fois plus convaincue d'erreur, de sottise et de ridicule si les conséquences de ses bévues avaient pu s'en trouver limitées à sa seule personne. Si je n'avais pas persuadé Harriet d'aimer cet homme, j'aurais supporté sans sourciller les pires affronts, et ce Mr. Elton aurait pu se montrer 2 fois plus arrogant que je ne m'en fusse soucié. Mais quand je pense à ma pauvre Harriet, comment avait-elle pu se laisser abuser de la sorte? Mr. Elton jurait n'avoir jamais, absolument jamais songé à Miss Smith. Emma essaya de se remémorer les événements de ces derniers jours, mais tout était confus dans son esprit. Elle avait sans aucun doute été victime de ses idées préconçues et n'avait cessé d'interpréter de façon erronée les faits et gestes du jeune vicaire. Mais pour qu'elle se trompât à ce point, il fallait quand même que le comportement de Mr. Elton eût manqué de clarté et qu'un certain flottement, une certaine ambiguïté eût existé.
Dès qu'elle eut congédié la femme de chambre venue lui friser les cheveux, Emma put s'abandonner à son chagrin. Déjà, cette première phrase me fait... Elle est merveilleuse. J'aime beaucoup, c'est très drôle. Alors, Dominique Barberis, racontez-nous peut-être, pour commencer, comme nous l'avons fait pour les autres romans, quelles étaient les conditions de l'écriture de Emma. Emma, c'est un livre antérieur à Mansfield Park, dont nous parlions tout à l'heure.
Il est après.
Ou c'est juste après.
Oui.
C'est
juste après. Il est avant Persuasion.
Voilà. Il est entre Persuasion et Mansfield Park, dont on vient de parler.
Ah oui, d'accord.
Il était publié 2 ans, je crois, ou 1 an après...
En tout cas, c'est un livre publié, je crois, en 1816, mais rédigé entre 1814 et 1815. Voilà. Et là, le contexte aussi historique est important, puisque c'est les guerres napoléoniennes.
Mais elle n'en parle pas, elle ne les évoque pas, et c'est un roman qui vraiment tient de la comédie brillante, à mon sens, où il est question essentiellement de mariage, du travail d'une marieuse qui essaie de caser, au début, c'est l'extrait que vous avez évoqué, qui essaie de caser une amie moins brillante qu'elle.
Qui est un peu son jouet, d'une certaine
façon. Oui, voilà,
façon.
Qui est sa poupée dont elle, à qui elle propose comme ça des parties parce qu'elle pense que ce serait bien pour elle, parce que c'est une amie qui n'est pas fortunée, c'est une fille naturelle. Et effectivement, le passage que vous venez de citer fait suite à un épisode très amusant d'ailleurs, dans lequel, après avoir essayé de marier de toutes les manières possibles, de marier Harriet à Elton, au fond, elle est obligée de s'apercevoir, mais le lecteur s'en est aperçu bien avant, que c'est à elle qu'Elton s'intéressait. Elle a donc subi une fort désagréable déclaration dans une voiture fermée où elle était seule avec le jeune homme, tandis qu'il rentrait sous la neige, et elle est très vexée parce que c'est un homme qu'elle n'aime pas, c'est fort déplaisant d'avoir une déclaration d'un homme qu'on n'aime pas, et elle est très ennuyée parce qu'évidemment, elle a persuadé Harriet, il y a encore une histoire de persuasion, qu'il fallait qu'elle aime ce jeune homme, ou elle l'a laissé se persuader qu'elle en était amoureuse. Aussi bien, Harriet va se laisser persuader d'aimer trois hommes pendant le roman.
Donc là, c'est le jeu qui caractérise cette jeune femme, Emma. S'il fallait la rapprocher des personnages dont on parlait tout à l'heure dans Mansfield Park, elle est plutôt, même si elle vit à la campagne, elle est plutôt du côté des londoniens brillants.
Pas vraiment, parce que d'abord, elle vit vraiment à la campagne, puis elle a un père qui est un personnage très haut en couleur, très drôle, qui s'appelle Mr. Woodhouse, et qui est un hypochondriaque fini. Et pour qui Londres, c'est vraiment une cité où règne le mauvais air, on ne peut pas aller à Londres. Alors sa fille aînée s'est mariée et vit à Londres, il est toujours inquiet. Et en fait, le rêve de Monsieur Woodhouse, c'est quand même de rester où il est. D'ailleurs, il y a un moment où il le dit, au fond, ne pas avancer dans la vie. C'est un personnage très frileux. Il empêche Emma d'aller où que ce soit, même au bain de mer, même dans des petites villes au bord de la mer. Et donc, non, on ne peut pas dire, elle adhère d'une certaine manière. C'est un personnage très ambigu, très intéressant, très charmant, mais très ambigu, parce que tout en étant d'une certaine manière beaucoup plus libre, tout de même, elle se soumet à son père et elle valorise, je crois, aussi ce qu'elle possède dans leur petit domaine d'Hartfield. Elle souffre un petit peu qu'il y ait peu de distractions, mais en même temps, je ne pense pas qu'elle rêve de partir à Londres.
Oui, parce que on ne sait pas très bien si elle se soumet à ce père extrêmement frileux dont vous dites que la peur est pour lui un art de vivre, parce que au fond, ce confort, vous dites que c'est un roman du confort, Emma, c'est très intéressant ce terme-là.
Oui.
Ce confort-là, finalement, il lui va très bien à Emma. Et pourtant, c'est une fille intelligente, c'est une fille qui a une forme d'ouverture.
Elle a une forme d'ouverture très grande, mais oui, voilà, elle est très ambiguë. Alors, cette idée de confort, oui. Je trouve qu'elle est centrale dans le roman parce que d'abord, Emma dépend de son père. Et elle fait tout pour satisfaire son père, au point d'ailleurs que quand elle a elle-même une déclaration de mariage, enfin une demande en mariage qu'elle est prête à accepter, elle dit « ça n'est pas possible parce que mon père ne va pas le supporter, il veut qu'elle reste et tout va s'arranger à la fin de manière très drôle » parce que finalement M. Woodhouse comprend que son gendre va le protéger des cambrioleurs, donc il vaut mieux avoir un gendre que pas de gendre du tout, donc tout s'arrange. Mais dans le même temps, je pense que cette idée du confort omniprésente dans le discours du père, qui influe sur la vie de sa fille, est quelque chose qu'elle rejoue ou qu'elle défend dans le domaine amoureux. C'est-à-dire que c'est une jeune femme très intelligente qui raisonne, et qui raisonne vraiment en ces termes, qu'est-ce qui va me permettre de conserver ce statut, somme toute très agréable, qui est le mien. Elle est couvée par son père, et comme elle le dit, je suis partout la première. Et un mari n'est pas toujours quelqu'un qui vous permet d'être partout la première. Elle a sous les yeux son beau-frère, qui n'est pas antipathique, mais enfin, auquel sa sœur paraît entièrement soumise. Et je crois que c'est quelqu'un qui rêve d'une espèce d'indépendance.
Donc elle choisit le célibat, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, ce qui va complètement à contre-courant d'abord des mœurs de l'époque,
oui,
et puis d'un peu tout ce qu'il y a dans les romans de Jane Austen.
Bah, c'est-à-dire qu'elle choisit le célibat, elle est très ambiguë parce que c'est une coquette dans la réalité. Et on a l'impression que, en fait, comme elle a réfléchi, elle a vu que l'amour était quand même quelque chose d'assez dévastateur et que finalement le confort de voir des intrigues, de fomenter des intrigues en étant soi-même à l'abri est beaucoup plus amusant et beaucoup moins dangereux. Il me semble que c'est comme ça qu'elle résout le problème. On ne sait pas si elle aurait pu le résoudre toute la durée de sa vie comme ça, mais en tout état de cause, au début du roman, c'est comme ça qu'elle le résout.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Jane Austen avec Dominique Barberis et en l'occurrence de son roman Emma. Vous vous rappelez, Dominique Barberis, dans votre préface à ce livre, qu'à l'époque on est dans un style romanesque qui est le style gothique. En quoi est-ce que c'est important pour comprendre comment est-ce que Jane Austen se place par rapport à ce style-là, qui est le style de son époque? Comment, de manière littéraire, elle se place par rapport à ce style gothique?
Eh ben, elle n'est pas du tout dans cette logique-là. Et alors, le style gothique, elle s'en moque un peu. C'est-à-dire que c'est là encore, son héroïne n'est pas tout à fait conforme. Disons que dans le roman, il y a deux jeunes femmes. Il y a Emma et puis il y a une autre jeune femme. Alors, Emma est dite belle, brillante, etc. Et puis il y a une autre jeune femme qui arrive, qui est moins fortunée, qui a toutes sortes de problèmes, qui est menacée de finir gouvernante, mais qui correspond sans doute plus, sans être du tout dans l'univers gothique, mais à l'héroïne traditionnelle. Elle est belle, pâle, lisse, distinguée. Elle correspondrait sans doute mieux au schéma, à ce qu'on attendrait d'une héroïne de roman classique.
Justement, c'est pour ça qu'on lui reproche, au fond,
voilà,
que ces personnages soient trop manquent de banalité, manquent d'imagination par rapport à la production de l'époque.
Voilà, exactement. Mais ça n'est pas non plus... ce sont les contemporains qui lui reprochent ça. En fait, le personnage d'Emma est bourrée d'imagination. Simplement, elle travaille avec l'univers qui est le sien. Et je crois que, comme l'a dit Christine Jordis tout à l'heure, imaginer, comme le fait Virginia Woolf, qu'elle aurait pu faire autre chose ou qu'il aurait été bien qu'elle fasse autre chose. Je crois qu'elle elle travaille avec cet univers très ténu. Elle tisse une toile qui est d'une subtilité très très grande. C'est-à-dire que chez elle, des choses totalement insignifiantes, elle montre comment de très petites causes peuvent naître de grands effets. C'est-à-dire qu'elle montre de très près le mouvement même de la vie. Par exemple, il y a une scène, bon, il pleut.
Alors, il pleut toujours. Alors,
voilà.
Bon, il y a toujours, soit il fait beau, soit il pleut, mais en tout cas, la météo est toujours indiquée.
Très importante, parce que M. Woodhouse est tétanisé par la météo. S'il fait froid, il faut se protéger, il faut faire des feux, etc. Mais il pleut. Et, bon, ça n'est rien du tout, c'est même banal dans le climat anglais. Mais, tout à coup, cette pluie, sous cette pluie, Jane Fairfax sort pour aller à la poste. Et à ce moment-là, tout le village est en émoi. Elle est sortie, alors M. Woodhouse est très inquiet, elle va se crotter les pieds, elle va prendre froid, etc. Mais en fait, elle sort, on s'aperçoit qu'elle est sortie malgré la pluie, elle est allée à la poste, probablement, et on le comprend, pour chercher une lettre dont elle ne veut pas qu'elle soit lue ou qu'on sache qu'elle l'ait reçue, qu'elle lui a été adressée. En réalité, elle est fiancée secrètement. Et donc, tout ça joue et tout ça finit par tisser une réalité très, très fine. Et c'est sans arrêt comme ça dans le roman.
Christine Jordi, j'aimerais vous entendre aussi sur Emma. Vous n'avez pas fait cette préface-là, mais vous êtes
beaucoup,
évidemment familière aussi
le
avec ce roman.
Et j'écoute avec plaisir ce qu'en dit Dominique. Je voulais dire à propos de Jane Austen et de son temps qu'elle était absolument opposée au romantisme et que elle a beaucoup ri et elle a ri publiquement de ce mouvement romantique qui pointait le nez, et elle a écrit, on n'en parle pas aujourd'hui, mais Northanger Abbey, qui est une parodie du romantisme où on voit Catherine, la jeune héroïne qui est complètement éprise de romans noirs, justement, de romans gothiques, et qui va vivre les terreurs de sa vie en se trompant lourdement parce qu'elle projette, comme on dit maintenant, elle projette tout ce qu'elle sait, tout ce que lui a appris le roman gothique sur une réalité qui, en fait, n'a rien à voir avec le roman gothique et qui est la celle de Jane Austen, celle dans laquelle nous vivons, avec la pluie, le beau temps et des êtres, après tout, banals, ordinaires. Voilà.
Elle n'est pas passionnée. En réalité, c'est quelqu'un, et en particulier, c'est vrai pour le personnage d'Emma, c'est quelqu'un qui calcule toujours. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que au moment même où elle a enfin la déclaration d'amour d'un homme qu'elle aime, dont elle s'est aperçue que finalement elle l'aimait, qui était son mentor, au moment même où il lui fait sa déclaration, comme elle s'est aperçue que son amie Harriet Smith était tombée amoureuse de lui, elle pense à Harriet Smith, et elle se dit comment est-ce que je vais régler ça avec Harriet Smith. Elle est toujours en avance dans la spéculation. C'est une cérébrale.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, elle s'est aperçue qu'elle l'aimait. Et là on rentre, je crois, dans le cœur de ce roman Emma, c'est que l'amour c'est une chose mentale. L'amour c'est quelque chose qui n'existe pas en tant que tel, c'est quelque chose qui se construit, et finalement, on peut aimer quelqu'un parce qu'on vous dit qu'il faut l'aimer, ou au contraire parce que, et c'est bien connu de tous et de tous nos auditeurs aussi, je pense, on peut aimer quelqu'un parce qu'il ne vous aime pas.
Bien sûr, et elle le dit d'ailleurs, il y a un moment où elle dit, où le personnage d'Emma dit, je ne vais pas me persuader que je suis plus amoureuse que je ne le suis. Ça veut dire qu'elle est extrêmement consciente du phénomène mental qui peut aggraver, accroître, produire le sentiment. Elle l'observe avec beaucoup d'ironie d'ailleurs chez Harriet, parce que en fait elle la suggestionne et chaque fois ça marche. Harriet s'éprend, sauf la dernière fois, elle ne s'éprend pas du bon. Elle a fait une erreur.
Christine Jordi.
Oui, je crois que ce serait le moment quand même de parler du cœur et de la raison. Vous avez justement la passion d'un côté, la raison de l'autre, donc exactement ce que vous êtes en train de dire. Et on voit la malheureuse Marianne, qui est aussi la proie de lecture romantique et qui est sous le coup d'une passion violente et qui manque d'en mourir. Elle pousse ce cri au milieu du livre, qui est un cri de détresse et c'est son amour. Elle a été trompée, trahie par le beau jeune homme qui est en fait un fieffé coquin. Et donc, voilà le résultat de la passion. Et celle qui a gardé la tête froide, Elinor, celle qui a su tout le temps raisonner en fonction de ses intérêts, mais aussi de l'estime, car l'amour, c'est surestime, hein, c'est la carte tendre surestime.
C'est tendre surestime.
C'est tendre surestime, exactement. Alors celle-là, Elinor, est celle qui est récompensée et qui finalement tire la pauvre Marianne du puits où elle s'enfonce.
Ah oui, vous avez raison. Mais je crois qu'il y a quelque chose de minable pour elle dans l'amour. Lorsque, je peux ajouter encore, lorsque Harriet Smith vient un moment, enfin sa jeune protégée vient, et elle est un peu honteuse, et elle lui apporte des gages d'amour qu'elle a gardés, c'est-à-dire elle était amoureuse du pasteur Elton, et elle a ramassé un bout de crayon qu'il avait utilisé, et du taffetas gommé qu'on avait utilisé pour le soigner, et on sent que ça révulse Emma, elle se dit « est-ce que je pourrais descendre aussi bas ?»
Quand même, pour terminer, il nous reste à peu près une minute. Il y a quelque chose qui est très frappant, je trouve, dans ce livre Emma et dans ce personnage d'Emma, c'est que elle est heureuse à chaque instant, et c'est presque l'un des seuls personnages de Jane Austen qui, malgré son narcissisme, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher au fond, va toujours être heureuse. Comment est-ce que vous expliquez
ça ? Alors, il y a un moment quand même où elle redoute, où elle pense que les choses vont mal tourner
elle
pour
redoute,
elle. Elle pleure.
Oui.
Elle pleure, elle passe une nuit à pleurer.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Non, non. Non, elle a une espèce, elle est charmante pour ça. Elle a une espèce d'optimisme, de grâce. On peut lui faire beaucoup de reproches parce qu'elle est vaniteuse, elle aime plaire, elle est coquette, elle est manipulatrice. Mais elle a aussi un fond, elle a un très bon fond. En fait, c'est ça qui est très amusant. Elle se fait morigéner par son mentor et finalement, elle accepte, elle réfléchit. C'est quelqu'un, et je pense que c'est commun à toutes les héroïnes de Jane Austen, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui voit les choses en face.
Christine Jordi, c'est moi, aussi comme ça que vous voyez
les choses. Moi, je crois qu'elles ne sont pas malheureuses, les héroïnes de Jane Austen, parce qu'elles construisent leur bonheur. Le bonheur est quelque chose qui se construit à force de discipline et de prudence, maître mot de Jane Austen.
Voilà,
et
d'accord.
Quand on a misé sur amour, sur le tendre, on réussit sa vie et on est heureux.
Et Jane Austen
on dit pas qu'on a beaucoup d'enfants. Ah, je pense que Jane Austen, elle le dit dans ce livre Mansfield Park sur l'éducation, qu'on apprend dans la vie. Par l'éducation, il faut apprendre à souffrir, car la vie est quand même faite de souffrance. C'est ça ce qu'elle dit aussi.
Merci beaucoup Dominique Barberis, merci beaucoup Christine Jordis. Tout de suite, comme chaque jour, presque à la fin de cette émission, nous retrouvons la poésie lue et choisie par Jacques Bonafé.
Bonjour, qui vient de loin est un retour à la vie après totale absence, hôpital et convalescence. Chaque printemps s'ouvre un nouveau bourgeon en feuilles blondes et sucrées sur la branche. Que ne suis-je en métamorphose de femme en cheval pour goûter de mes babines hautes une de ces flammes de miel? C'est un livre de Marie-Claire Bancard, pièce expérimentale pour instrument seul. Notre vie, sous contrôle de ce qui vient, depuis nos premiers secrets rapports avec le monde. Une alphabétisation de temps propre à chacun. L'empreinte unique d'un doigt fantôme sur le multiple. Notre vie, au-delà des mots. Notre vie, compositrice. Qui vient de loin et publiée au Castor Astral. Étonnement de constater un jour que nos cartes bleues et vitales ont le même format. On cherche sans trouver d'explication, puis dans un livre par hasard, on apprend que leur commun format est celui du nombre d'or. Oui, ces objets minimes expriment un ordre de notre monde. De même, la fleur de tournesol, mince sujet pour un poète, loin des questions vitales, mais elle inscrit une mesure universelle, l'escargot sa coquille en volute, la marguerite la disposition de ses pétales, sont tracés selon des calculs pareils à ceux qui ont bâti le Parthénon. Tout sujet touche l'immensité, frôle un abîme, serrer les durs rayons des lampes, les jeter à la face du crépuscule, organiser un monde net contre la nuit tombale. Oui. Un poète a le monde entier sur les bras. Sa parole parfois capture une plume, un nuage, annonce parfois très doucement que le golem ne viendra pas ce soir, qu'une guerre parmi cent autres a pris fin dans le monde. Et parfois, sur la partition des nuits, le poète déchiffre un sommeil proche du bonheur. Respire l'odeur forte des rues. Tâte l'espace entre parole et mort. Un jour, il se fermera dans ta main. Restera notre neutre piètre nom, plus peut-être le souvenir d'une minute que tu aimais, où tu collais ton visage sur un autre, ou sur la blessure vermeille d'un arbre. Aujourd'hui, ton sang bat, tu n'as qu'à tâter ton poignet pour supporter ta vie passionnément.
Dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonafé, pour clore donc, comme chaque jour, cette compagnie des auteurs. Un grand merci à vous deux, Dominique Barberis et Christine Jordis, pour cette conversation sur Mansfield Park, Persuasion et Emma. Tous ces romans qui sont disponibles chez Gallimard en folio classique. Je signale au passage la parution récente en folio également de votre roman, Christine Jordis, qui s'appelle Une vie pour l'impossible. Cette émission peut être réécoutée et podcastée sur le site internet de France Culture. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Cette émission était réalisée comme chaque jour par Laurence Millet. À la console, il y avait Pierrick Monsigny. Un grand merci à Corinne Amard, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Eva Lesseau. Demain, nous porterons nos regards sur la postérité de Jane Austen en compagnie de deux auteurs, Isabelle Bourg et Marianne Alphand.